Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
François Bayrou, bonjour.
Bonjour.
Au commissaire au plan, maire de Pau, président du Modem, nous allons parler entre autres énergie, démographie, mais je voudrais commencer avec la politique. Faut-il aujourd'hui, j'ai une question toute simple, François Bayrou, faut-il aujourd'hui, pour être écouté par les Français, tenir des propos violents, défendre des idées extrêmes et proposer des solutions radicales ?
C'est plus facile d'être entendu ou d'être de choquer ou de scandaliser. Oui. Ou de surfer sur des sentiments qui sont des sentiments plus noirs, c'est plus facile. Mais l'intérêt des pères et mères de famille, l'intérêt des jeunes, l'intérêt du pays,
oui.
C'est au contraire de refuser d'aller dans ce qu'on appelle des radicalités. Hein, les radicalités, qu'est-ce que c'est ? C'est des extrémismes de tous les bords. Hein. L'idée que c'est en choquant, en allant agiter les vieilles passions dangereuses du pays, en allant verser de l'essence sur le feu, c'est plus facile. Mais ceci est un abandon des responsabilités.
Un abandon des responsabilités. Le plus radical, c'est Éric Zemmour. Je vais pas passer, ne vous inquiétez pas, je vais pas passer cette interview sur Éric Zemmour. Néanmoins, le plus radical, c'est Éric Zemmour. Il brandit la menace du grand remplacement. Une idée récurrente de l'extrême droite depuis le 19e siècle. Est-ce qu'il nous entraîne vers ce que nous appellerions une guerre de civilisation?
Il y a deux aspects de la campagne qu'il mène.
Oui.
Le premier aspect, c'est agiter ce fond, qui est un fond des êtres humains depuis longtemps, qui consiste à cibler celui qui ne vous ressemble pas en disant on n'a rien à faire avec lui, qu'il retourne chez lui. Et c'est toute cette affaire insensée des prénoms.
Oui.
C'est-à-dire l'idée que en France ne serait autorisée qu'une liste de prénoms français, ce qui veut dire évidemment que on jette dans les cours de récréation des enfants les uns contre les autres, des enfants qui c'est celui-là, il n'est pas de chez nous. Or le plus précieux d'un pays, c'est que à l'école maternelle, à l'école primaire, celui qui est assis à côté de vous dans la classe, c'est votre petit frère, votre petite sœur. Et on lui prend la main parce qu'il est comme chez nous. Vous voyez, pour moi, la cour de récréation, c'est en fait le creuset du pays. Et l'idée que celui-là, ou le père de celui-là ou de celle-là n'est pas du pays, c'est une idée qui entraîne à la cruauté dans la cour de récréation. Et donc cette idée-là, pour moi, est une idée insupportable. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il va chercher dans l'histoire de la France ce qu'il y a de plus malsain, de plus honteux, de plus ignominieux, pour le défendre. Par exemple, il dit Pétain, bon, il a livré des juifs étrangers, c'était pas des juifs français. 4000 enfants de 2, 3, 4 ans ont été livrés, enfermés dans des camps et puis chargés avec leurs parents ou sans leurs parents dans des wagons à bestiaux pour aller être brûlés en Allemagne. Et qu'on ose faire la différence ou qu'on ose à nouveau en France faire la différence entre le petit garçon ou la petite fille juif, né en France, fils de parents étrangers, et les enfants qui avaient simplement une carte d'identité, c'est pas si vous pouvez ressentir ça. Je suis sûr que vous ressentez la même chose.
Je sais que ça vous bouleverse.
Et ça me bouleverse, et il est normal que ça le fasse. Et que ces gens-là osent s'appeler conservateur, ou essaie de capter le mot conservateur, alors que ça n'est pas un ça n'est pas conserver ce que nous avons de mieux dans le pays, c'est trahir ce que nous avons de mieux dans le pays. C'est une trahison de la France. C'est une trahison de ce qui nous fait vivre ensemble, de ce avec quoi nous avons construit le pays. C'est une tradition. C'est une trahison de Marie Curie, celle qui a inventé ou découvert ces lois de physique sur les rayonnements.
Alors il est dans son livre, il est très dur avec vous, il dit Bayrou, ce bon Judas Béarnais est un Machiavel de cour d'école qui monte des coups tordus de sous-préfecture. J'ai lu ça dans son livre, vous l'avez lu peut-être, je sais pas si vous avez lu son livre, enfin bon. Il est en train, sur le terrain politique, est-ce qu'il est en train de diviser les Républicains? Quand j'entends Christian Jacob, vous entendez Christian Jacob dire « il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas raciste », le président des Républicains, que lui répondez-vous ?
D'abord, je n'ai pas de débat avec Jacob, j'ai des débats avec la réalité. Oui. Si le président de la droite dite de gouvernement en France, d'une certaine manière, avalise ou lave l'auteur de ses propos de la réalité de la honte qu'il porte, alors il trahit lui-même l'héritage, parce que je croyais vaguement que ce parti des Républicains que je connais bien et dont je connais beaucoup de membres que j'estime, on n'a pas les mêmes idées toujours, mais que j'estime, je croyais que ce parti était vaguement gaulliste. Prétendre devant ceux qui se disent héritiers du général de Gaulle que Pétain c'était la France, que le Pétain de la collaboration et de la livraison des Juifs c'était la France, alors il y a là quelque chose qui est simplement un crachat à la visage de l'histoire, au visage de l'histoire, un crachat à leur héritage, à leur identité. Et je suis absolument certain qu'à l'intérieur même du mouvement, il y a des gens qui vont dire « mais ça va pas, dans quelle dérive sommes-nous entraînés ?» Et vous voyez bien tout ça. Pourquoi vous n'allez pas me dire que Zemmour est passionné par le destin historique de l'image du maréchal Pétain? C'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il se sert de ça pour faire des signes à ce qu'il y a de fermentation la plus dangereuse dans ceux qui, depuis très longtemps, dans le monde de la démocratie française, essaient de faire glisser les choses vers l'inacceptable.
François Bayrou, est-ce que vous allez créer un grand parti démocrate à la française?
J'espère. Alors on en parle. Oui. J'espère que oui.
Avant la fin de l'année?
Avant la fin de l'année. Parce qu'autrement, ça ne se fera pas.
Que vous appelleriez comment?
Ah ben on verra.
Vous n'avez pas trouvé le nom. Donc, un grand parti.
Il m'arrive d'avoir des idées et de ne pas les dire au micro de Bourdin.
Ah bon?
Oui, c'est...
Attends, ici on dit les choses.
Oui, ben je...
On dit les choses, François.
Vous m'avez posé la question, j'ai dit oui, bon. J'espère qu'on va y arriver. Mais
bon, donc vous allez créer un grand parti démocrate à la française en réunissant le MoDem et La République En Marche, c'est l'objectif.
Entre autres.
Entre autres. Donc rassembler ces deux mouvements politique.
Ben parce que ce sont les deux mouvements fondateurs de l'aventure de 2017. Et que ils n'ont pas entre eux de différence de vision. Ils ont des différences d'histoire et d'organisation.
Oui.
Substantielles. Mais sur ce qu'ils croient, c'est essentiel en politique ce qu'on croit. Et sur ce qu'ils veulent, c'est aussi important. Alors moi, je ne vois pas de différence substantielle entre eux.
Bien, avant la fin de l'année, donc, ce grand parti démocrate, vous pourriez prendre la tête de ce parti, oui ou non? Oui.
Non, enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Et ma conviction, c'est que si on veut réunir, alors il faut qu'il y ait des responsabilités partagées.
Bon, mais vous n'êtes pas seul à vouloir créer un grand parti. Édouard Philippe, lui aussi, va annoncer la création de son parti ou de son rassemblement le 9 octobre. Il va soutenir Emmanuel Macron, comme vous, en 2022. Est-ce qu'il est en train de préparer sa candidature présidentielle à 2027?
Je pense que quelqu'un qui, en 2021, aurait comme projet, passant par-dessus l'élection présidentielle, de monter une structure pour 2027, c'est qu'il ne connaîtrait pas la politique, et je ne soupçonne pas Édouard Philippe d'en être ignorant.
Donc ce n'est pas pour ça.
Bon, peut-être c'est ça dans un coin de sa tête ou de la tête de ses amis, oui. Mais il y a
vous
beaucoup
pas
de
dupe.
Gens.
Vous n'êtes pas dupe. Vous avez trop d'expérience en politique.
Un peu d'expérience.
Oui. Et donc, vous n'êtes pas dupe.
Et donc, je vais vous dire, si on fait ou si on entre dans cette construction, dans l'édification d'un mouvement sérieux, faut le faire pour des générations, pas pour une élection. Encore moins faut-il le faire en pensant à une autre élection que celle qui vient. Et donc pour moi, ceci est totalement écarté de ma pensée. Ce qui est dans ma pensée, c'est bâtir quelque chose dans lequel jeunes, les Français, les citoyens, ceux qui sont aujourd'hui désabusés de la politique, puissent reconnaître leur espoir ou leur rêve, et qu'ils s'engagent pour cela.
Bien, hier soir, vous avez dîné à l'Élysée avec lui, avec d'autres autour de la table. Vous n'avez pas parlé de ça, j'imagine. Enfin, vous me direz rien.
Non. Ben, vous savez bien, j'ai un problème médical que je suis obligé de vous avouer à cette antenne. Pas matinale, une amnésie récurrente.
Une amnésie récurrente.
Chaque fois que je franchis le seuil de l'Élysée, par exemple, ou que je participe à des réunions comme ça, le lendemain et le surlendemain a fortiori, je ne sais plus ce qui c'est.
Alors François Bayrou.
Mais rassurez-vous, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vous raconteront...
Qui vont raconter ce qui s'est passé hier soir. Bon. Oui. Réforme des retraites. Réforme des retraites. Édouard Philippe veut une réforme des retraites. Il le dit dans une interview. Forte interview, il dit qu'il faut prolonger l'âge de départ, 65, 66 et même 67 ans. Est-ce qu'il y aura une réforme des retraites relancée avant la présidentielle de 2022?
La réforme des retraites sera au cœur de la campagne de l'élection présidentielle. C'est un des sujets, pas le seul, qui sera au cœur de l'élection, de la campagne de l'élection présidentielle. Moi, je crois qu'il y a des idées qu'on n'a pas encore explorées. Et si je peux, je ferai tout ce que je peux pour que ces idées apparaissent dans le débat. Pour l'instant, on fait uniquement des divisions. La charge des pensions divisée. Et je crois qu'on peut aller un peu plus loin dans la réflexion. Vous savez que j'avais, depuis très longtemps, plaidé pour la retraite par points. Ça a été pas très bien mené.
Par Édouard Philippe.
Par le gouvernement.
Comme ça, mais moi.
Vous dites ça parce que vous aimez la polémique. Vous aimez que les gens
j'aime
discutent.
J'aime pas la polémique. J'aime la vérité.
C'est votre boulot.
François Bayrou.
Votre boulot pour faire de l'audience.
Aujourd'hui, il y a une voiture qui est pilotée par Emmanuel Macron sur le siège du passager avant droit. Qui est assis, Édouard Philippe ou François Bayrou?
Écoutez, franchement, vous imaginez qu'il s'agit uniquement d'une bagnole et d'un siège, c'est que vous comprenez pas très bien la politique.
Très bien, mais
politique, c'est une affaire de deux éléments. Le premier, c'est le leadership. Qui a la faculté de porter des idées et de les faire entendre?
Vous?
Et le deuxième, c'est affaire de communauté d'équipes, d'histoires, de gens qui se sont choisis depuis longtemps et qui pensent qu'ensemble, ils vont pouvoir y arriver. Et c'est pas, comme vous voyez, une bagnole avec un siège.
Oui, d'accord. Mais est-ce que Emmanuel Macron a un soupçon de doute concernant la fiabilité d'Édouard Philippe, selon vous?
Je ne crois pas.
Non, vous ne croyez pas. Bon, un mot encore sur ce qu'il propose. Après, je vais passer au nucléaire et à l'énergie. Un mot sur ce qu'il propose encore. Le revenu pour les jeunes, le revenu d'engagement, il n'est pas très favorable. Et de quoi parle-t-il encore? Eh bien, il parle des dates des futures élections, de la dette. Il dit que c'est une question fondamentale, la dette. Vous aussi?
C'est-à-dire, j'ai plaidé pendant 20 ans pour que ça devienne une question fondamentale. Est-ce que je peux vous dire sur la dette une chose?
Oui.
Vous savez que j'ai fait un rapport au plan la dette.
Justement.
Sur la dette de guerre que représente le Covid et sur le plan Marshall dont on avait besoin. Pourquoi? Parce que ça n'est pas la même chose. Je me suis battu comme un chien au début des années 2000 sur la dette. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt était à 4 ou 5% par an, alors que la croissance était à 1%. Si vous empruntez à des taux aussi hauts,
oui,
alors que la croissance est si basse, alors tout d'un coup, le poids de la dette augmente sans interruption. Si, comme aujourd'hui, vous empruntez à 0% et que vous trouvez une croissance qui est à des 2, cette année 6, l'année prochaine 4%, alors cette dette-là, elle est justifiée, à condition de l'utiliser à de l'investissement et pas à la gaspiller.
Est-ce que voilà. Je comprends, mais quand je lis Édouard Philippe, j'en termine avec lui, nous continuons à danser au-dessus d'un volcan, dit-il. Nous continuons à danser au-dessus d'un volcan?
Il a été chef du gouvernement, je suis certain... Ouais. Tout le monde ressent la nécessité d'une solidarité minimale dans les moments où nous sommes, non ?
Vous avez donc des doutes ?
Non, je n'ai pas de doutes. Vous voudriez me faire dire ça,
d'accord.
Et ça n'est pas mon intention.
Bon, alors, les prix de l'énergie, François Bayrou, les prix de l'énergie grimpent, montent. Que va annoncer le Premier ministre ? Quelle est la possibilité ? Je ne sais pas, moi, une prime pour les plus modestes, une baisse des taxes, un gel du prix du gaz et de l'électricité ? C'est possible ?
Je ne crois pas que ce soit possible, parce que comme votre journaliste l'a très bien expliqué il y a une minute, le prix du gaz, ça n'est pas le gouvernement qui le fixe.
Oui, oui.
C'est le prix du gaz sur le marché de l'énergie mondiale.
Oui, mais est-il normal qu'on paie de la TVA sur ce que perçoit l'État ? Sur les taxes, c'est quand même invraisemblable.
C'est-à-dire, vous...
La taxe sur la taxe.
Oui. On va attendre ce que le Premier ministre va dire. Oui. Moi, je pense que, ce qu'on lit dans les journaux, que vous lisez autant que moi, c'est on va aider les ménages les plus faibles pour faire face à ces augmentations qui sont en effet lourdes.
Bon.
Mais la vraie question...
J'allais y venir.
C'est, qu'on a de la substitution ? Est-ce qu'on peut, à la place du carburant des voitures, est-ce qu'on peut trouver de l'énergie moins chère et sans émissions de gaz à effet de serre ? Parce que tout ça est à replacer dans la question planétaire du climat et de l'atmosphère qui est de plus en plus chargée en CO2, gaz carbonique, comme on l'a appris à l'école. La vraie question, c'est celle-là.
Donc il faut développer, encourager le nucléaire.
Donc, je vais le dire comme je crois il faut le dire. Si on veut aller vers de l'énergie qui soit sans émission de gaz à effet de serre, il y a deux choses à faire. Le renouvelable... Mais il est intermittent, il y a du soleil où il n'y a pas de soleil, il y a du vent où il n'y a pas de vent, il y a de l'eau dans les cours d'eau où il n'y en a pas, et une énergie pilotable. Et la seule qui existe sans émission de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire.
Donc il faut d'urgence construire 6 EPR, et elle est française.
Et vous avez compris, le gaz,
oui,
c'est pas français, c'est pas chez nous.
Donc il faut d'urgence construire de nouvelles centrales.
Il faut avoir un programme qui permette de prendre le relais des centrales existantes sans danger, en maîtrisant complètement le nucléaire et son avenir. Et tous les pays du monde sont aujourd'hui en train d'y réfléchir. Et nous avons la chance incroyable, grâce aux générations précédentes, d'être parmi les pays du monde qui maîtrisent le mieux cette technologie-là. Et donc, qu'on ne regarde pas ça en face, c'est un programme à 30 ans. Si on ne prend pas les décisions dans les deux années qui viennent, on va se trouver devant une rupture, une falaise, disent les spécialistes, qui est épouvantable. L'électricité nucléaire, au moment où on veut tout électrifier, les voitures, les chauffages, pour qu'il n'y ait plus de gaz, de charbon, de pétrole utilisé pour notre vie quotidienne, cette électrification générale impose qu'on produise de l'électricité au coût le moins cher, et avec les émissions de gaz à effet de serre les plus basses. Et il n'y a que la maîtrise de la production nucléaire de l'électricité qui puisse faire ça.
J'ai une dernière question, François Bayrou, à propos de démographie. Est-ce que il faut plus d'immigrés en France pour assurer un équilibre démographique ?
Non.
Non.
Ça dépend de la dynamique démographique de nos concitoyens, des
Donc,
Français.
Donc, il faut encourager les politiques familiales.
Absolument, c'est vital.
Oui.
Pourquoi ? Parce que si vous essayez, l'Allemagne a essayé de le faire avec de très grandes difficultés, Ils ont décidé un jour, comme ils n'avaient plus d'enfants, il y a très peu d'années, de faire entrer un million de personnes et d'hommes en Allemagne. Ça n'a pas changé la courbe démographique. Et deuxièmement, ça crée des perturbations culturelles. Le sentiment que nous n'assurerons plus nous-mêmes notre avenir au travers des enfants que nous allons mettre au monde. Et que donc, il faut aller chercher ailleurs la ressource qui nous permet simplement de survivre, de travailler, de payer des cotisations, de faire que le pays reste vivant. C'est la raison pour laquelle la question de la dynamique des familles, du choix qui est tellement mystérieux, hein, parce que c'est une question pour la nation, mais c'est chaque femme, d'abord, et chaque homme, chaque mère et père de famille, qui décide pour lui-même. Or, ça ne se fait que si la confiance revient. Et c'est pourquoi la question de la confiance est évidemment celle des échéances cruciales qui nous attendent.
Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.